Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les funérailles nationales de Robert Mugabe dans un stade aux trois quarts vide à Harare, correspondance de Noé Hochet-Bodin. En Italie, les réactions politiques fusent après le feu vert du gouvernement à l'Ocean Viking autorisé à accoster à Lampedusa. En France, le Rassemblement national recrute et forme de jeunes adhérents en vue des municipales. Produit d'appel de son université d'été, reportage à Fréjus. Dan Fauquemberg. En fin de journal, nous ferons le point sur la mobilisation des Gilets jaunes à Nantes, où des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Le camarade Bob, comme le surnommaient les dirigeants de son parti, sera bien inhumé au monument national d'Harare, mais pas avant un mois, le temps de lui construire un mausolée. Le camarade Bob n'est autre que Robert Mugabe, héros de l'indépendance, boussole morale pour les uns, dictateur qui a conduit le pays au bord du gouffre pour les autres. Hommage officiel aujourd'hui dans un stade national de 60 000 places au centre de la cérémonie. Le discours d'Emerson Mnangagwa, ancien bras droit de Mugabe, qu'il avait renversé il y a un peu moins de 2 ans. C'est une correspondance de Johannesburg de Noé Hochet-Bodin.
Juste avant que les 95 colombes ne soient lâchées dans le ciel d'Harare pour se souvenir du père fondateur de la nation, l'actuel président Emerson Mnangagwa a longtemps encensé son prédécesseur. Mugabe était selon lui une icône panafricaine, un homme d'État qui a toujours défendu le Zimbabwe. Dans son discours, Mnangagwa est allé jusqu'à demander la fin des sanctions internationales pour justement honorer la mémoire de Robert Mugabe. Les deux hommes, meilleurs alliés pendant des décennies, étaient pourtant devenus frères ennemis. Robert Mugabe qualifiant encore récemment Mnangagwa de traître après le coup d'État de 2017. Dans les gradins, les présidents sud-africains, ghanéens, kényans ou encore namibiens ont tous rendu hommage à celui qu'ils considèrent comme leur grand frère, l'un des derniers héros de la lutte d'indépendance sur le continent. C'est toute notre patrie, notre continent qui est en larmes, a continué Emerson Mnangagwa. Pourtant, les Zimbabwéens ont boudé leur ancienne gloire. Les gradins du stade de 60 000 places étaient aux trois quarts vides aujourd'hui.
Tirs de roquettes et raids aériens ce samedi sur l'aéroport de Mitiga, situé à quelques kilomètres de la capitale libyenne Tripoli. Offensive lancée par les troupes du général Haftar qui accuse le gouvernement d'Union nationale d'utiliser cet aéroport à des fins militaires. Le général Haftar, selon lequel 2 commandants d'une force alliée ont été tués lors d'un raid aérien mené hier soir à Tarouna, par, je cite, des drones turcs. Fin de citation. Par milliers, ils ont défilé non loin du centre historique d'Athènes contre les répressions policières récurrentes dans le quartier des Erkias. Ce quartier qui jouxte 2 établissements universitaires, symbole de la résistance contre la junte des colonels, héberge et concentre militants de mouvements politiques, écrivains et artistes. Ce qui lui vaut le qualificatif de rebelle dans les colonnes de la presse officielle. L'un des champs de réflexion des animateurs des Erkias n'est autre que la lutte contre les populismes et leurs relents identitaires, dont l'extrême droite italienne, la Ligue du Nord, dont le leader Matteo Salvini n'a pas manqué de lancer aujourd'hui « Le nouveau gouvernement rouvre les ports, l'Italie redevient le camp de réfugiés de l'Europe ». Fin de citation. L'Italie, dont la nouvelle équipe gouvernementale a autorisé l'Ocean Viking à accoster à Lampedusa, réaction et commentaires nourris sur l'échiquier politique. Marie Duhamel.
Politique migratoire, l'Italie vire de bord. En acceptant de faire débarquer les migrants de l'Ocean Viking à Lampedusa, le pays revient en effet sur la politique des ports fermés mise en place par l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est la fin de la propagande de Matteo Salvini, elle qui se faisait sur la peau des désemparés en mer, se félicite sur Twitter Dario Franceschini, une des figures de proue du Parti démocrate, tout nouveau ministre de la Culture. La semaine passée, le président du Conseil avait déjà en personne promis de modifier le décret sécuritaire hostile aux ONG, un revirement apparemment douloureux pour Luigi Di Maio, chef du mouvement 5 étoiles, vice-président du précédent gouvernement, actuel ministre des Affaires étrangères.
Je crois qu'il y a une grande équivoque sur le fait qu'un port sûr ait été assigné à l'Ocean Viking. Nous l'avons fait seulement parce que l'Union européenne a adhéré à notre requête de prendre en charge une grande partie de ces migrants.
5 pays dont l'Italie et la France se répartiront, ces 58 hommes, 6 femmes, 18 mineurs, un processus que le nouveau gouvernement veut automatiser tout en imposant des amendes aux pays réfractaires refusant d'accueillir des migrants. Ce sera l'objet d'un mini-sommet le 23 septembre prochain à Malte. Quant à Matteo Salvini, passé dans l'opposition, le chef de la Ligue a tweeté son dégoût. L'Italie redevient aujourd'hui un camp de réfugiés. Il fustige une équipe de ministres usurpateurs, haïssant selon lui les Italiens.
Marie Duhamel à Rome. L'extrême droite droite française, elle, s'emploie à s'offrir une avantageuse vitrine municipale, faire valoir idéal en vue des présidentielles. Mais cette stratégie mérite un rajeunissement de son électorat. Si les européennes sont venues quelque peu affaiblir la place du vote RN chez les jeunes avec la percée des écologistes, le parti de Marine Le Pen bénéficie de la recomposition politique en cours et continue d'attirer les 18-30 ans. Ainsi, à l'occasion de l'université d'été du RN, Génération Nation, le mouvement de jeunesse du parti d'extrême droite, forme près de 200 d'entre eux pour les municipales. L'événement est organisé au centre culturel de Fréjus, près du port. C'est un reportage de notre envoyée spéciale, Anne Fauquemberg.
C'est David Rachline, le maire de Fréjus, qui est applaudi. Lui qui a été élu à 27 ans en 2014 est chargé d'introduire les débats pour décomplexer les jeunes du RN.
Pour tous les jeunes, vous êtes potentiellement des exemples d'implication. Et vous le serez encore davantage en vous investissant directement dans les élections municipales, en faisant campagne.
Parmi eux, Dorian Munoz. Il relève le pari à La Seyne-sur-Mer, dans le Var. Il sera tête de liste de cette ville de 65 000 habitants. Ce n'est pas rien à 27 ans, mais ce collaborateur d'élu au RN depuis 10 ans a déjà de la bouteille.
C'est beaucoup de responsabilités, mais quand vous êtes préparé et que c'est vous qui avez demandé à représenter votre parti, vous le faites avec honnêteté et envie, quoi.
En région parisienne, Kélia Hadoun est également prête. Elle sera sur la liste à Champigny-sur-Marne. La jeune femme de 23 ans veut s'incarner dans un rassemblement national qu'elle dit dissocié de ses origines historiques.
Moi, je suis arrivée bien après l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Alors non, moi, je fais partie justement de ce Front National nouveau, jeune, dynamique, qui cherche à s'éloigner des extrêmes, qui cherche à redynamiser le mouvement. Moi, je fais partie de cette génération-là.
Sauf que dans les faits, les profils ultra restent là, au Parlement européen par exemple. Le journal Le Monde a enquêté en cette rentrée. Plusieurs personnalités identitaires proches de l'œuvre française ou encore de l'Opus Dei ont été rappelées pour assister les eurodéputés RN.
44e mobilisation des Gilets jaunes avec un rassemblement à Lyon, 9 interpellations pour attroupements illégaux en vue de commettre une infraction et port d'armes illégales. Ils étaient plus de 1000 à Nantes où des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. 27 interpellations selon un dernier bilan. Les précisions sur place de Florian Cazola.
Oui, et pourtant, les commerçants avaient pris leurs précautions. Dès hier, des dizaines d'entre eux avaient protégé leurs vitrines par de larges panneaux en contreplaqué. Et les quelques-unes qui n'ont pas été recouvertes ont été prises pour cible. Ça a été le cas de la devanture de la Mutuelle Générale, complètement brisée. Une cinquantaine de mètres plus loin, toujours en plein centre-ville, plusieurs manifestants ont tagué la banque HSBC et le McDonald's. Mais les tensions les plus vives ont eu lieu en début d'après-midi. Les manifestants répondaient aux tirs de gaz lacrymogène par des jets de pierre sur un camion des forces de l'ordre. Des policiers qui ont tenté toute l'après-midi d'empêcher les 1800 personnes de s'approcher de la préfecture. Ce soir, la situation tente à se calmer. Les manifestants sont désormais en ordre dispersé. Ils jouent en quelque sorte au jeu du chat et de la souris avec les policiers. Des policiers qui ont interpellé au moins 30 personnes depuis ce matin.
Florian Cazola à Nantes. Dernier développement de cette édition, le groupe français Louvre Hôtel peut se targuer d'être la première société occidentale à signer un contrat avec le régime syrien dans le secteur hôtelier depuis 2011, année du début de la guerre qui a fait plus de 370 000 morts. Chloé Doma nous appelle de Beyrouth.
C'est l'un des premiers groupes hôteliers européens à remettre les pieds en Syrie depuis le début de la guerre. Le groupe français Louvre Hôtel, qui détient entre autres les enseignes Campanile, Kyriade et Première Classe, va bientôt réouvrir 2 établissements à Damas. La Syrie est sous le coup de sanctions internationales qui limitent les investissements étrangers, mais le groupe français assure via un communiqué à l'agence France-Presse que son contrat respecte strictement le droit et les directives internationales concernant la Syrie. Par précaution, peut-être, le deal passe par un partenaire de Louvre Hôtel qui signe avec une entreprise syrienne. À ce stade, nous n'avons pas plus d'informations sur le montant de l'opération, sur l'emplacement, la taille ou la date d'ouverture des 2 hôtels. Le groupe ne dit pas non plus qui sera sa clientèle cible. Même si le régime syrien affiche sa victoire, Damas est encore loin d'être une destination touristique et la reconstruction tant attendue tarde à démarrer. Car ailleurs dans le pays, la guerre n'est pas finie. Les combats se poursuivent dans la province d'Idleb depuis le mois d'avril.
Les grandes lignes du temps de demain dimanche pour la France métropolitaine. Instable au sud, bien ensoleillé sur le nord du pays. 9 à 14 degrés sur la moitié nord du pays pour les minimales. 14 à 18 sur la moitié sud. Avec des pics de 18 à 20 degrés sur les rivages de la Méditerranée. Il est tout juste 18h10. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique, Cindy Le Grumelec.